Précisément 18h sur France Culture, le journal Adrien Toffolé. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Le Sénégal vote depuis ce matin pour élire un nouveau président. Rien n'est joué entre les deux favoris. Le candidat du pouvoir, Amadou Ba, et l'opposant qui veut renverser la table, Bassirou Diomaye Faye, dont la candidature anti-système attire en tout cas une partie de la jeunesse dans les urnes. Reportage à Dakar dès le début de ce journal. L'actualité à l'étranger, c'est aussi le coup de filet de la police brésilienne contre les commanditaires de l'assassinat de Marielle Franco, cette élue noire de la ville de Rio, tuée en pleine rue en 2018. 6 ans après sa mort, sa famille attend toujours d'en comprendre les raisons. En France, les militants opposés à l'autoroute A69 dans le Tarn crient victoire suite à un avis de l'Office français de la biodiversité dévoilé qui pourrait temporairement mettre à l'arrêt les travaux. Et puis, quel sort sera réservé aux sans-abri et aux migrants pendant les Olympiades cet été? Des associations se mobilisent pour dénoncer un effacement des précaires. Ils se disent tous deux confiants d'être déclarés vainqueurs dès le premier tour de la présidentielle qui se joue aujourd'hui au Sénégal. Amadou Ba, successeur désigné du président Macky Sall, et Bassirou Diomaye Faye, chef de l'opposition et candidat anti-système. Malgré les 17 candidatures, tout se joue entre ces deux hommes pour les plus de 7 millions d'électeurs attendus aux urnes toute la journée. Les résultats seront connus dans quelques heures, mais on peut déjà voir que Bassirou Diomaye Faye et son programme radical semble plébiscité par une jeunesse sénégalaise en quête d'espoir. Reportage à Dakar de nos envoyés spéciaux Omar Waman et Jérémy Thuil.
Dans ce bureau de vote de Parcelle Assénie, dans le nord de Dakar, les jeunes ont été de plus en plus nombreux au fil de la journée. Sans surprise, Babacar a choisi le candidat anti-système, Bassirou Diomaye Faye.
Je vote pour le changement. Vous savez, le Sénégal, depuis 1960, est géré par une classe politique qui sont là que pour eux-mêmes. Nous voulons un président du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Le candidat de la jeunesse a promis durant la campagne de renforcer l'indépendance de la justice. C'est notamment ce qui a poussé Isidore à lui donner sa voix.
Oui, je suis venu voter pour qu'il y ait un changement, quoi. Nous sommes témoins de ce qui s'est passé ces dernières années au Sénégal. Il y a eu trop de violence. Parce que moi qui vous parle, j'ai un neveu qui a fait pratiquement plus de 7 mois en prison, juste pour les manifestations.
Cette candidature de rupture a réveillé la colère des jeunes qui se sentaient pour beaucoup oubliés par le pouvoir sénégalais. L'espoir est permis, veut croire Aïssa Tou.
Il y a beaucoup de diplômés donc, qui n'ont ni de stage, ni de travail, qui quitte le pays pour aller ailleurs, et ça c'est pas normal. Donc lui, le projet rassemble tous les jeunes pour rester dans notre pays, pour travailler pour le développement du Sénégal. Et c'est tout à fait normal que les jeunes y adhèrent.
Ces jeunes Sénégalais ont voté avec enthousiasme, convaincus qu'une page de l'histoire de leur pays est sur le point de se tourner.
Omar Waman, les bureaux de vote sont ouverts encore une heure. La date d'un éventuel second tour n'est pas encore fixée. Au Tchad, la présidentielle dont le premier tour est organisé le 6 mai prochain se fera sans la plupart des opposants au président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. 10 candidatures, notamment celle de Nassour Ibrahim Negui Coursami et celle de Raki Samat Saleh, les plus critiques de la junte, ont toutes été rejetées, jugées non conformes par le Conseil constitutionnel tout à l'heure. Les candidats dénoncent une forfaiture et des manœuvres visant à faire gagner des Itno. En Russie, le bilan des victimes de l'attaque terroriste revendiquée par le groupe État islamique est désormais de 137 morts. L'identification des corps est toujours en cours. L'enquête se poursuit également. Aucune nouvelle information n'a été communiquée sur les 4 terroristes présumés qualifiés de citoyens étrangers par le Kremlin. Ce dimanche, les Russes ont respecté une journée de deuil national décrétée par Vladimir Poutine hier. Au Brésil, sa mort avait été qualifiée d'attentat contre l'état de droit et la démocratie le 14 mars 2018. Marielle Franco, une élue noire de la municipalité de Rio de Janeiro, militante lesbienne, engagée contre les violences policières, était tuée de 4 balles alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Les hommes de main des anciens policiers reconvertis en tueurs à gages avaient été arrêtés en 2019. Et aujourd'hui, la police brésilienne vient de lancer une opération pour arrêter les commanditaires présumés de l'assassinat. 15 personnes ont été interpellées grâce à un ancien membre de la police passé aux aveux, Jean-Mathieu Albertini.
Sous une pluie persistante, la police fédérale agit très tôt ce dimanche dans le plus grand secret. Au vu du pédigré des suspects, les précautions étaient justifiées. Sont en effet impliqués un député fédéral, Chiquinho Brazão, et son frère Domingos, conseiller au tribunal des comptes publics de Rio de Janeiro. Plus surprenant, l'ancien chef de la police civile, Rivaldo Barbosa, a aussi été incarcéré. Les deux frères, influents politiciens liés à des milices, ces groupes paramilitaires mafieux qui dominent une bonne part de Rio, auraient ordonné le meurtre quand le policier aurait agi pour saper l'enquête. Les motifs du meurtre sont encore flous, mais Marielle Franco aurait été tuée pour son opposition farouche à l'expansion immobilière des milices. Après 6 ans d'attente, sa famille peut enfin espérer des réponses. Avec l'avancée de l'enquête et la collaboration récente d'un des tueurs à gages avec la justice, de nombreuses révélations sur les relations troubles entre une partie du monde politique et le crime organisé de Rio de Janeiro sont encore à attendre.
Ils ont passé plus d'un mois perchés dans les arbres à Seis, dans le Tarn. Les 3 militants des différents collectifs mobilisés contre la construction de l'autoroute A69, qui doit relier, en théorie, Toulouse à Castres, sont descendus de leurs ZAD aériennes en début d'après-midi. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
Les collectifs se disent victorieux et comptent sur une mise à l'arrêt prochaine des travaux.
Oui, alors il s'agit d'un acte à l'occasion d'une plainte déposée par un opposant à l'A69. Les gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre mettraient en danger non seulement les opposants qui occupent les arbres, mais aussi les nids de mésanges bleus. Dans le cadre de cette enquête, des documents ont été transmis aux avocats. L'Office français de la biodiversité a été amené à constater sur place la nidification de cette espèce protégée et que le bois de la crème-arbre est bien classé à fort enjeu environnemental. Il ne peut donc faire l'objet de défrichement jusqu'au 1er septembre. Plus globalement, il ne peut être l'objet de défrichement entre la mi-novembre et début septembre, rappelle le collectif La Voix est libre. Si l'OFB ne communique pas dans ce dossier, le directeur général du concessionnaire Atosca, Martial Gerlinger, assure, je cite, que si la présence de mésanges est confirmée, on ne coupera pas ces arbres, dit-il, avant de préciser, on les coupera plus tard. En attendant, les opposants à la 69 ont gagné du temps. Eux qui militent pour la suspension des travaux, en attendant qu'un recours sur le fond contre le projet soit examiné par la justice administrative. Deux personnes sont quand même remontées dans les arbres cet après-midi pour empêcher physiquement toute tentation d'Atosca de reprendre l'abattage.
Précision de Nicolas Ballu, merci. Il est pour l'instant à la tête de la première liste de gauche dans les intentions de vote aux européennes. Raphaël Glucksmann lance officiellement sa campagne pour le PS et Place Publique avec un meeting en ce moment même en banlieue de Toulouse. Sa liste est pour l'instant en troisième position, créditée de 9 à 13% selon les sondages, loin derrière le Rassemblement National, mais de plus en plus proche de la majorité qu'il espère rattraper. Le RN, quant à lui, annonce un nouveau ralliement venu de la droite en vue de l'élection de juin prochain. Malika Sorel, un nom inconnu du grand public, essayiste conservatrice, ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration, ancienne proche de François Fillon, elle va figurer en deuxième position sur la liste du RN. Nous sommes à 4 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et beaucoup de questions restent sans réponse s'agissant des conséquences sur le quotidien des franciliens. On évoque souvent le sort des Parisiens, automobilistes et usagers des transports, salariés qui ne pourront pas télétravailler, mais beaucoup moins du sort des plus précaires comme les sans-abri, les migrants ou encore les travailleuses du sexe. Le collectif Le Revers de la Médaille, qui rassemble 87 associations et ONG, a mené des actions ce week-end pour alerter une nouvelle fois sur leur risque d'exclusion, Faustine Calmel.
Devant le musée d'Orsay et ses visiteurs médusés, des militants grimpent sur les statues des 5 continents.
Allez-y, 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 montez, montez, accrochez.
Non, non, non. Monsieur.
Voilà. Donc il faudrait bleu, noir,
allez,
rouge.
Allez, les anneaux, là. On y va, on y va, on y va.
Ils y accrochent des pancartes JO 2024, le nettoyage social en héritage.
On est le collectif Le Revers de la Médaille. On alerte sur les conséquences sociales des Jeux Olympiques. Ça va être formidable pour 15 millions de touristes. Mais il faut savoir qu'à chaque occurrence de ces grands événements sportifs, les personnes à la rue, les exilés, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, ils sont chassés par les forces de l'ordre, ils sont dégagés de la ville.
Dans Paris, plusieurs statues sont ainsi affublées de messages. Le passe-muraille de Montmartre pour les exilés, repoussé de Paris à l'approche des Jeux, celle de l'avocat Valdec Rousseau aux Tuileries.
Et donc là, on accroche une pancarte qui dit « l'inclusion par l'incarcération ».
Prune Missoff est responsable plaidoyer à l'Observatoire international des prisons.
On a un garde des Sceaux qui se réjouit quand on ouvre des nouvelles prisons, que ça arrive à point nommé. pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. On va multiplier par 5 les patrouilles de police dans les transports. On va augmenter les audiences de comparution immédiate dans toutes les villes qui accueillent les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Avec la crainte d'un non-respect des droits fondamentaux des populations les plus précaires pendant ce qui devrait être la trêve olympique de l'été prochain.
Il était considéré comme l'un des plus grands poètes contemporains de Bosnie-Herzégovine. On a appris la disparition de l'écrivain Abdullah Sidran, profondément lié à la ville de Sarajevo où il est né et qu'il a immortalisé avec son recueil de poèmes « Cercueil de Sarajevo » publié en 1993 pendant la guerre de Bosnie. Avant cela, il avait également signé le scénario de « Papa est en voyage d'affaires » d'Emir Kusturica, Palme d'or à Cannes en 1985. Abdullah Sidran est décédé hier à 79 ans. Le temps de demain, des nuages de la Bretagne au nord, le long de la Loire également et en Aquitaine. Les températures matinales diminuent encore un peu, 5-6 degrés au nord et à l'est, 8 degrés au centre et à l'ouest, entre 10 et 13 au sud, 15 degrés en moyenne l'après-midi.